France Culture.
France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Journal de voyage dans le labyrinthe de la ville de New York par Pascal Dupont, troisième épisode cette nuit. Sous la direction d'Yves Jagu et Alan Manstein, les toutes nouvelles nuits magnétiques allaient pour de nombreuses années se glisser entre tous les discours de la vie moderne et la vie à New York en donnera toute la mesure fantasmée. Postmoderne en réalité, dans sa lente maturation sur des voies dont nous avait bien mis en garde un Jean-François Lyotard par exemple, ou encore un Jean Baudrillard. Ici, le projet s'est solidifié, concaténé. Le pays marche comme à angle droit après la défaite ruineuse de machines de guerre impuissantes à mater un ennemi matériel et comme un simulacre produit des communications de masse. Le projet, c'est New York lui-même, projet issu de l'immigration, projet qui bascule tout entier dans sa propre histoire, ou plutôt dans son méta-récit narcissique et impérial.
New York, Moyen-Âge, un journal de Pascal Dupont, mis en page par Bruno Sourcy. Ce soir, cathédrale. New York est construite à l'échelle d'un village. Depuis l'observatoire de l'Empire State Building, Manhattan paraît minuscule. Un vent terrible souffle au 106e étage. New York, ville rêvée. Cour intérieure, noire, entre les buildings. Le soleil éclaire la poussière en suspension. Architecture complètement irréelle. Impression renforcée pendant le week-end, quand les appartements sont désertés et la ville désolée. La ville se noie dans une foultitude de signes, d'images évocatrices. C'est une ville imaginaire, légendaire, puisque rien n'est certain de ce qu'on y vit. Tout est sujet à interprétation, même les murs. Cité médiévale encore, New York est une ville gothique. Ces buildings d'abord qui sont autant de cathédrales dont les flèches s'élèvent à la gloire du dollar. Mais New York, au nombre de ses revivals architecturaux, a eu son époque néo-gothique. St. Patrick Cathedral, Trinity and Grace Church, le Woolworth Building, Cathedral Church of St. John the Divine, et bien sûr Tudor City au style flamboyant. Les buildings d'abord. L'arrogance du gratte-ciel est celle d'un château fort. Le défi est le même, les machicoulis mis à part. New York, ville féodale, tracée au carré. Ville cubiste, disait Picabia. Les gens dans la rue, marchant ligne droite, tournent à angle droit. Sauf à Grand Central Station, le seul endroit omnidirectionnel de la ville, où les chemins, en se croisant, vont tous azimuts. Ici, la technique a toujours devancé l'art, avant de le supplanter complètement, de le supprimer pour occuper sa fonction. Les gratte-ciels ont été édifiés trop vite, trop haut, pour qu'on imagine de nouvelles formes, de nouvelles façades. Du coup, ils apparaissent comme de grands enfants qui ont grandi trop vite, prématurément, dans des habits devenus trop petits. Au 48e étage, on retrouve les mêmes colombages, les mêmes toitures, que sur les immeubles de 6 étages du début du siècle.
Les cathédrales de New York ont été bâties, non parce que l'homme voulait s'élancer vers Dieu, mais pour refaire ce que l'homme avait déjà fait et le refaire en mieux.
Poppies de Patti Smith.
Vincent Scully, critique d'art et professeur à Yale, spécialiste du gothique. Alors j'ai pris le train pour New Haven et j'ai vu Vincent Scully. Il m'a reçu dans une de ses bâtisses construites dans le plus pur style du gothique flamboyant. New York, m'a-t-il dit, est une ville complètement gothique. Les premières cathédrales sont les buildings de Wall Street, downtown. D'abord, la seule verticalité autorise le rapprochement. À New York, contrairement à d'autres villes comme Chicago, les cubes sont surmontés de flèches. La base de la construction est celle d'un immeuble, mais le haut en est celui d'une église. Or, ajoute Scully, la coïncidence entre le building et la cathédrale n'est pas fortuite. D'abord parce qu'en élevant des buildings comme le World Trade Center, les constructeurs ont bien eu dans l'intention d'élever des temples à la gloire du capital. Et aussi que cette double verticalité est la forme qui reflète la mieux l'idée de concurrence. La verticalité est un pari, un défi. Qui sera le plus grand? Qui sera le plus haut? Le gothique, parce qu'il tend vers le sommet, vers une hauteur impossible, est l'expression architecturale de la concurrence, de l'esprit de compétition. Dans cet esprit ont été édifiées les cathédrales néo-gothiques de New York, comme St. Patrick ou Trinity Church. On retrouve là les mêmes formes étirées, allongées, qui épousent les formes des buildings, se reflètent dans leurs façades. Et il est faux de croire, conclut Scully, que la foi a engendré la construction de ces lieux de culte. Le gothique, apprécié aujourd'hui, est une mécanique purement fonctionnelle. Il est accouché une fois encore par l'esprit de compétition et plus généralement par la confiance dans un système de valeurs, un système économique qui institue la croissance comme première de ses règles d'or. Scully n'a pas tort de démontrer l'étroite collaboration, la confusion entre rationalisme et mysticisme présente dans les formes originales de l'architecture new-yorkaise. Ces épousailles entre les cathédrales et les gratte-ciels sont consacrées dans la transparence de la lumière. Car plus encore que la verticalité et l'aspiration vers le haut, on repère dans les deux types de construction les mêmes ouvertures, la même préoccupation de laisser filtrer la lumière. Deux architectures qui tendent à la dématérialisation, d'où le vitrail et les formes creuses et les vides, d'où les façades vitrées et les structures métalliques aussi fines que possible. New York s'est conçue à la pointe de Manhattan, face à une liberté éclairant le monde. De même que la cathédrale du gothique se voulait le centre de la cité de Dieu, de la cité de lumière.
New York est une ville dont il est très difficile de situer l'âge. À certains moments, elle est la modernité. Quand on est du côté du World Trade Center, elle est ce que l'architecture, une certaine architecture actuelle, peut envisager de plus épuré et de plus suspectement épuré. Mais là, donc, on est en plein XXe siècle. Très souvent, on se sent en 1925, mais plus souvent encore, ou en tout cas aussi souvent, on se pense dans une sorte de Moyen-Âge.
Alain Médam, auteur de New York Terminal.
Ce qui me semble important, c'est que je crois que New York a toujours cherché à s'identifier à une cathédrale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin, vers la fin du 19e siècle, c'est Trinity Church qui est la pointe la plus avancée de New York vers le nord, quand New York remonte vers le nord et conquiert l'espace de Manhattan, qui est à la fois la pointe la plus avancée vers le nord et le point le plus haut de New York. Et quand on regarde New York sur une carte, Manhattan est comme une sorte de gratte-ciel couché. Et donc, ça avait le fait que Trinity Church soit le point le plus haut et le point le plus avancé vers le nord avait une double dimension symbolique. C'était le point le plus haut dans la verticalité topologique et dans la verticalité de l'existence quotidienne de New York. Et puis ensuite, ce sont d'autres gratte-ciels qui se sont identifiés, enfin qui ont incarné le point ultime atteint par New York dans ses ambitions à une sorte de théâtralité sacrale. Bon, ça a été le Woolworth, et après ça a été l'Empire State Building, et bon, maintenant les dernières en date sont les deux tours du World Trade Center. Et alors, ce qui me semble caractériser cette architecture, qui est une sorte d'architecture d'hostie, de pureté, c'est que il y a peut-être deux esthétiques dans New York. Pendant tout un temps, les gratte-ciels cathédrales de New York veulent montrer la surrection de New York, c'est-à-dire la poussée. Hein. Et toute l'architecture est une architecture d'élévation, de jaillissement, de pulsion. Et puis, les deux tours du VTC, World Trade Center, elles ressemblent à un programme de computer. C'est-à-dire qu'elles sont parfaitement répétitives à l'infini, dans une sorte de pureté programmatique. Et tout se passe comme si ces deux tours voulaient dire la conquête est terminée, nous sommes allés aussi haut que possible, et maintenant nous pouvons distribuer la prospérité américaine, le capital ou la puissance à l'infini de façon systématiquement répétitive, comme lorsqu'on voit 25 écrans de télévision côte à côte qui répètent la même image de Petula Clark, par exemple. Et donc, on a l'impression qu'il pourrait y en avoir encore 25 ou 2500 autres. Et donc, c'est cette idée de répétition à l'infini.
Pourquoi y a-t-il deux tours au World Trade Center de New York? Tous les grands buildings de Manhattan se sont toujours contentés de s'affronter dans une verticalité concurrentielle. D'où résultait un panorama architectural à l'image du système capitaliste. Une jungle pyramidale. Tous les buildings à l'assaut les uns des autres. Le système lui-même se profilait dans l'image célèbre qu'on avait de New York en arrivant de la mer. Cette image a complètement changé en quelques années. L'effigie du système capitaliste est passée de la pyramide à la carte perforée. Les buildings ne sont plus des obélisques, mais s'accolent les uns aux autres, sans plus se défier, telles les colonnes d'un graphe statistique. Cette nouvelle architecture incarne un système non plus concurrentiel, mais comptable, et où la concurrence a disparu au profit des corrélations. Ce graphisme architectural est celui des monopoles. Les deux tours du WTC, parallèle épipède, parfait de 400 mètres haut, sur base carrée, vase communicant parfaitement équilibré et aveugle. Le fait qu'il y en ait deux identiques signifie la fin de toute concurrence, la fin de toute référence originale. Paradoxalement, s'il n'y en avait qu'une, le monopole ne serait pas incarné, puisque nous avons vu qu'il se stabilise sur une forme duelle. Pour que le signe soit pur, il faut qu'il se redouble en lui-même. C'est le redoublement du signe qui met véritablement fin à ce qu'il désigne. Tout Andy Warhol est là. Les répliques multipliées du visage de Marilyn sont bien en même temps la mort de l'original et la fin de la représentation. Les deux tours du WTC sont le signe visible de la clôture d'un système dans le vertige du redoublement, alors que les autres gratte-ciels sont chacun le moment original d'un système se dépassant continuellement dans la crise et les défis. Extrait de l'échange symbolique et la mort de Jean Baudrillard, lu par Thomas Woods.
D'une certaine façon, cette sorte de cathédrale hostie que représentent les deux tours du VTC et qui est en quelque sorte une consécration de la distribution de la prospérité, en tous les cas c'est ce qu'elle voudrait signifier symboliquement, elle me paraît dénier l'autre cathédrale dont cette cathédrale est née, et l'autre cathédrale c'est New York cathédombre, c'est-à-dire la cathédrale de l'obscurité, la cathédrale de l'ombre, la cathédrale de la mort, la cathédrale de l'envers. Et c'est comme si New York, pour manifester le point où elle était allée, le point extrême où elle avait pu aller en tant que cathédombre, édifiait chaque fois une cathédrale de lumière, qui est actuellement le VTC, mais qui a été l'Empire State, puis le Chrysler. Et cette cathédrale de lumière ayant pour objet de reproduire la cathédombre, mais en déniant la cathédombre, c'est-à-dire en la reproduisant en tant qu'image de pureté ou de puissance. Et il y a donc comme une sorte de phénomène d'écho entre la cathédrale gratte-ciel, la plus pure et la plus jaillissante possible, et la cathédombre spasmodique que constitue New York et dont la cathédrale est née. Et alors que la musique qui va avec la cathédrale, c'est la fugue de Bach, la musique qui va avec la cathédrombre, c'est le jazz. Et donc, quand on est à New York, on pense tout le temps, enfin, moi, je pensais tout le temps, soit à Bach, soit au jazz.
Il y a aussi un jeu de reflets entre la cathédrale building, gratte-ciel, et la cathédrale gothique elle-même, qui se reflète souvent, d'ailleurs, dans le building. Et est-ce qu'on ne peut pas s'interroger aussi sur le fait qu'il y a eu importation d'un style et d'une architecture?
Oui, je pense que là, des personnes qui auraient étudié systématiquement l'architecture new-yorkaise pourraient en parler mieux que je ne pourrais le faire, mais en tous les cas, il y a eu des volontés de reproduction dans New York de styles du passé, de reproduction délibérée. Par exemple, dans Soho, il y a eu toute l'époque de cast iron, c'est-à-dire la construction d'une architecture vénitienne en fer moulé. Et il y a toute une série de palais vénitiens qui ont été reconstruits dans Soho, en fonte. Et New York s'est voulu à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 1850, une sorte de Venise de fer. Donc c'était la Venise du siècle le plus avancé à l'époque, c'est-à-dire le siècle du charbon et du fer, le 19e siècle. Et New York, ville sur l'eau, ville transfuge par rapport au terroir américain, s'est probablement identifié à cette époque-là dans l'esprit de ses managers, de ses princes du capital, à Venise. Et donc là, on a tout un quartier qui montre que New York, à cette époque-là, s'est identifié à une Venise de fer. Et puis ensuite, il y a eu ce qu'on appelle l'art moderne, qu'on appelle encore l'art rétro, enfin disons l'époque de 1910-1920, où tout se passe comme si, grâce à l'invention de procédés techniques qui permettent l'édification des gratte-ciel, on passe du style cast iron, qui est une sorte de gothique vénitien, entre le roman et le gothique vénitien, mais en fonte, à la découverte d'une sorte de gothique flamboyant, mais hyper flamboyant. Et c'est le Woolworth Building, par exemple, qui est une sorte de Big Ben, mais 4 ou 5 fois grand comme Big Ben. Ou alors le Chrysler, qui est très beau, enfin, à mon sens, et qui est également une sorte de flèche de cathédrale gothique d'acier. Et d'ailleurs, même les fresques qui sont au plafond des gratte-ciels de cette époque-là montrent l'identification au ciel. C'est-à-dire que c'est l'avion, les constructeurs de cathédrales, c'est-à-dire du Chrysler, dans le ciel, dialoguant avec les avions. Et donc, à l'époque, cast iron, New York s'est identifié à l'eau et à Venise, et aux grands navires à vapeur qui entraient dans son port et puis qui parfois explosaient. Et ensuite, vers 1910-1920, New York revit ce qui a été l'équivalent du grand gothique flamboyant en Europe. C'est comme si elle repassait en accéléré un film déjà vu ailleurs.
Est-ce qu'il ne faut pas être un peu fou pour être bâtisseur de cathédrale? Et est-ce que cette folie ne donne pas une idée du climat moral et psychologique de New York?
Effectivement, on peut vivre à New York peut-être, enfin de plusieurs façons sans doute, mais soit si l'on vit quotidiennement, les gens qui vivent quotidiennement à New York, à mon avis, ne doivent pouvoir survivre dans la raison qu'à condition, que sous condition de ne pas voir, de ne plus voir New York. New York étant la déraison, si on veut conserver sa raison tout en vivant quotidiennement à longueur de vie dans cette ville, il faut dénier la déraison, et il faut en même temps dénier New York sous peine de perdre sa raison et de basculer dans la déraison new-yorkaise, dans la folie, dans le délire, dans le merveilleux délire, mais qui est un délire. Et moi-même, j'ai ressenti certaines nuits au moment de me coucher, dans la nuit, quand on continue à entendre les sirènes de police, quand on continue à entendre la ville, et qu'on a vu des gratte-ciel toute la journée, on sent qu'on a une armée de gratte-ciel dans la tête. C'est-à-dire qu'on sent que New York s'est introduite, d'une certaine façon, dans son crâne. Et, d'une façon certaine, il y a une sorte de stimulation intellectuelle, de surexcitation intellectuelle, qui est dû à la ville de New York qu'on internalise, qu'on intériorise. Une sorte de folie lyrique a été investie dans la construction de New York, et c'est New York, la fugue de Bach, et le jazz fou en même temps. Il n'y a donc rien d'extraordinaire si toute cette folie investie dans New York s'investit à son tour sous forme de folie dans l'esprit de celui qui s'imbibe de cette ville.
On hésite entre deux interprétations quand on pense ou quand on voit New York. C'est d'une part que New York cherche éperdument à s'inventer une histoire à travers ses différents revivals, renaissance vénitien ou bien gothique, et en même temps au contraire que New York fuit l'histoire et que le New-Yorkais cherche à ne pas avoir d'histoire.
Je crois que le New-Yorkais cherche à se situer entre deux mondes. En réalité, il ne se veut pas américain, Ce n'est pas Nashville, ce n'est pas le Western, ce ne sont pas les prairies, ce ne sont pas les États-Unis. Et il ne se veut plus européen, puisqu'il a choisi l'exil et il a choisi le Nouveau Monde. Donc, il choisit de ne pas naître complètement à nouveau en tant qu'Américain, mais il a décidé de mourir en tant qu'Européen. Et donc, d'une certaine façon, il se survit comme Européen, hein, ou bien encore, on continue à s'installer dans une sorte de situation de renaissance perpétuelle. Et donc, ce qui fait, d'une certaine façon, l'identité new-yorkaise est une double négation. La négation du lieu d'origine, du passé, l'Italie, par exemple, et la négation de l'Amérique, d'autre part. Et disons que New York est comme une sorte de ligne de partage, et si l'on reste sur cette ligne de partage entre ces deux continents, on réussit de cette façon-là à transgresser les deux continents, et c'est à travers cette double transgression que l'on existe.
Fogat, Fool for the City.
Les premières images que j'ai eues de New York en débarquant de l'avion, et ça a été en arrivant en voiture vers New York, d'abord les rames de métro qui étaient dans une sorte d'énorme garage où toutes les rames de métro dormaient, et les graffitis sur ces rames de métro avant même d'avoir encore découvert la ville de New York. Et pratiquement la convulsion de ces graffitis sur ces rames qui se trouvaient elles-mêmes en pleine campagne, sur une sorte d'immense terrain vague, c'était déjà la ville avant d'être arrivé en ville. Ce qui fait qu'en fait, je peux dire que je suis arrivé à New York avant d'être arrivé à New York. Et puis, un quart d'heure après, c'était les gratte-ciels, évidemment, et donc la silhouette des gratte-ciels de New York, qui donne, quand on les voit chaque fois pour la première fois, parce qu'on les redécouvre chaque fois, au contraire, une impression d'ordre et une sorte d'énorme jouet parfaitement agencé. Et c'est beau. Ensuite, quand on arrive dans les rues, c'est immédiatement, ce sont les journaux. Les journaux de la veille déchirés qui volent dans les rues. Et ce sont les voitures cabossées, les taxis cabossés jaunes. C'est le sentiment de quelque chose d'électrique qui passe à travers les gens et les objets et les choses. Et ce qu'on peut appeler une sorte de frémissement de la ville permanent. Et avec une sorte de bruit sourd, métallique, permanent, et qui est une sorte de... presque d'esthétique de la vitalité de New York.
Quel bruit, d'où vient-il ?
On peut difficilement localiser le sujet de ce bruit. Et disons que c'est la ville, mais ce sont en même temps, bien sûr, les klaxons, les voitures, et le slang, enfin, le bruit du slang, enfin, de l'accent américain. Le bruit également de toutes les armatures de métal par lesquelles passe le métro aérien ou le métro souterrain. Ensuite, bon, les bruits se précisent lorsque l'on descend dans le métro, mais au début, c'est une sorte de rumeur générale. Alors, cela pour dire que finalement, on ne sait pas très bien à quel moment on a les premières impressions sur New York. Est-ce que c'est au moment où on découvre les rames de métro, ou le moment où on découvre la silhouette des gratte-ciels, ou le moment où on est enfin dans la rue de New York?
Il y a tout de même une ponctuation sonore qui revient en permanence, c'est les sirènes.
Oui, alors les sirènes de police, c'est une sorte de... c'est une musique, finalement. C'est-à-dire que tantôt, on l'entend comme un cri de coyote, enfin, une sorte de hurlement de coyote, oui, dans une jungle. Tantôt, ça peut prendre même les allures d'une sorte de fugue de Bach, jouée par des sirènes de police, puisque quand elles se répondent, et puis l'une avance tandis que l'autre recule, et donc dans cette avancée, dans ce recul des différentes sirènes, sur, disons, la même rythmique, dans la nuit, par exemple, à certains moments, ça peut atteindre... presque la, paradoxalement, la pureté d'une fugue de Bach que rappelle en même temps la forme des gratte-ciels. Je raconte dans le livre, à un moment donné, et ce que j'ai entendu de ma chambre d'hôtel dans la nuit, c'est-à-dire la poursuite, finalement, probablement d'un gangster, enfin, ou de quelqu'un qui était poursuivi par la police, et où on entendait à la fois le klaxon fou de la personne de l'individu poursuivi, qui avançait de plus en plus près de la chambre d'hôtel, les hurlements continus et extrêmement angoissants en même temps, des sirènes de police qui avançaient aussi, et puis ensuite un grand fracassement dans la nuit, mais on ne savait pas où ça se passait, sauf que ça n'était pas loin de la chambre d'hôtel, et puis tout se tait, puisque... et donc dans cette sorte de monter jusqu'au paroxysme de cette sirène et de cette musique, c'est la vie d'un homme qui a fini d'exister. Et donc, on peut dire d'une certaine façon que c'est une musique de la ville, par la ville, qui est constamment incarnée, parce que ça n'est pas une musique gratuite, mais c'est une musique par laquelle les hommes, à travers laquelle... il se signifie que les hommes vivent et meurent en même temps.
On the subway. I thought the man digging on me. But the dude was hung up in a mass of confusion as to who I was. He thought he was trying to see.
I didn't know that they were trying.
But you see, me knowing me, black, proud, and determined to be free, could plainly see my enemy. Yes,
I've seen that nigga somewhere before.
Yes, I know him. I once slaved for him, body and soul.
soul and made him a pile of black gold. Off the sweat of my labor he stole. But his game is old. We broke in the mental hole. Things must change. There's no limit to our range. He can never understand the new black man. Less long, see us every day riding the subway. 8th Avenue, 7th Avenue, 6th Avenue, IND, BMT.
Next stop, 125th Street.
Les Last Poets, On the Subway. À New York, avec Alain Mesdames.
Chaque fois, ça a été le même ravissement, étonnement, et la même surprise, et la même stupéfaction. La même stupeur, chaque fois. Et ce sont vraiment des petits riens qui montrent qu'on est à New York et pas ailleurs. Alors ça peut être l'allure des gens, même la façon dont le conducteur de l'autobus qui vous conduit à New York entre l'aéroport et New York fait claquer les billets de $1 dans les doigts. Il y a une façon d'être qui est plus qu'américaine, qui est new-yorkaise, qui est ce côté voyou-voyeur, cette dimension de jeu permanent, de jeu sur l'absurde. Et ensuite, on se sent à New York également à cause de la... à travers la couleur, disons, des devantures, des inscriptions, des publicités. Et c'est-à-dire qu'on ne se sent pas dans l'Amérique contemporaine ou dans l'image qu'un Européen peut avoir de l'Amérique, mais dans une sorte de monde intermédiaire qui n'est pas l'Europe, qui n'est pas l'Amérique, qui est dans une sorte, qui est un entre-deux. Et qui est l'entre-deux d'Européens qui ont essayé de se faire Américains et qui est une sorte d'atmosphère qui est figée autour de 1925, comme si la ville, au niveau de sa chair, en dépit de la construction de nouveaux gratte-ciel, s'était fixée sur son histoire, mais son histoire à New York, c'est 1925, c'est pas le 17e siècle. Et donc on retrouve quelque chose, une atmosphère qu'on appellerait ici rétro, beaucoup plus prégnante et présente à New York qu'en Europe, en réalité. Il y a une indéfinissable atmosphère de 1925 sur laquelle se baladent des silhouettes de noirs, de jaunes, de flics qui viennent se reposer, par exemple dans un café ou dans un restaurant. Il y a une façon usée, fatigué d'être, de marcher, qui pour moi est new-yorkaise et n'est pas autre chose, une sorte d'amalgame usé. Il y a aussi des jeux qui sont à la limite de l'agression. Par exemple, quatre noirs ensemble qui se baladent du côté de Times Square le soir, et j'ai vu l'un des quatre sortir à un moment un vrai grand couteau et faire semblant de vouloir égorger son copain, ce qui était un jeu, mais avec un vrai couteau, et en pleine rue avec des vrais gens. Donc on est toujours à la limite, à cette limite où le jeu pourrait devenir tragédie, disons, ou en tous les cas, fait divers grave et sanglant. D'une certaine façon, il y a une sorte de gentillesse à New York, une gentillesse sur l'absurdité. Une gentillesse sur le qui serait la gentillesse des gens, de personnes qui vivraient dans les dernières journées d'un navire dont on sait qu'il va chavirer, qu'il va sombrer. C'est une sorte de gentillesse de gens perdus et éperdus dans un navire qui prend l'eau. Et on le sent très souvent quand on se promène dans cette ville. Moi, je n'ai jamais senti à New York quelque chose de tendu à l'insupportable.
look good in blue. Le bleu te va bien, de Blondie. Blondie a un succès fou, oui, vraiment fou. Allez savoir pourquoi.
Il y a à New York non seulement une gentillesse, mais constamment une sorte de clownerie et un humour new-yorkais qui n'a rien, là encore, d'américain, mais qui est un humour new-yorkais qui peut être un humour juif, un humour noir, un humour jaune, un humour portoricain ou un humour new-yorkais qui est l'humour de tous ces humours. Et pratiquement, on peut considérer à New York que l'humour est presque une arme de combat. Et là, non seulement les gens jouent, mais ça joue sur les gens, si on peut dire. Parce que même lorsque les gens ne jouent pas, le fait de voir dans un même regard des peaux jaunes, des peaux noires, des latino-américains, des juifs, des waps, et toute une série de silhouettes et d'histoires différentes, tout cela fait que ça joue même quand les gens ne jouent pas. Et si les gens jouent tant, c'est que ça joue sur eux, sans doute. Mais c'est difficile de savoir, de faire la part entre le fait qu'on ait vu beaucoup de films qui se passent à New York, et qui fait que donc cette ville est imaginée, elle est fortement imaginaire et imaginée dans nos esprits, avant même d'y être allé, et ce qui se passe est l'imaginaire propre de New York, pas à propos de New York. En tout cas, si New York est une sorte de film, ce n'est pas un film où les gens seraient préparés à des rôles extrêmement construits et élaborés. Ce serait plutôt des sortes de Elsa Poppin, tantôt comique, tantôt dramatique. Et c'est comme si, en fait, 10 fois Elsa Poppin passait sur 10 écrans conjoints dans une même salle de cinéma. C'est-à-dire comme si on avait 10 fois un film de l'esprit d'Elsa Poppin que l'on pouvait voir de façon quasiment simultanée. On a très souvent cette impression, plutôt que d'être, enfin moi en tout cas, plutôt que d'être dans un film, d'être dans une salle ou d'être dans un lieu où plusieurs films qui n'en sont pas au même stade de leur déroulement sont en train de se dérouler en même temps. Et une ville, je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la rencontre constante et constamment éphémère de plusieurs trajectoires qui n'en sont pas au même point, qui n'en sont pas au même lieu, mais qui se trouvent par hasard au même endroit. Sauf qu'à New York, on ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est beaucoup plus évident et c'est beaucoup plus fou. Et donc, on le voit, on le sent.
Est-ce que l'imaginaire dont vous parlez, le caractère imaginaire de la ville de New York, n'est pas aussi lié au fait que elle représente un petit peu la synthèse de toutes les projections possibles des villes que l'on connaît?
On a dit souvent de New York que c'est la ville des villes. Et je crois que c'est juste de dire que c'est la ville des villes. En tous les cas, on le sent quand on y est. Et je pense que l'histoire de New York le montre. En même temps, il y a eu toute une période à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, jusqu'à la crise de 1929, où New York a comme entretenu une sorte de dialogue direct avec le monde entier. C'est-à-dire que New York s'est voulu, à cette époque-là, ville des villes ou ville mondiale, en fait, ou capitale du monde, ou capitale métropole du monde. Et il y a toute une série de symboles architecturaux dans New York qui représentent constamment le globe, Prométhée et New York. C'est comme si New York ne s'était plus située à cette époque-là, qui est l'époque de l'irruption des gratte-ciels, de la construction des gratte-ciels, de l'invention des gratte-ciels à la fin du 19e siècle, dans les toutes dernières années, comme si New York ne s'était plus, dans son esprit même, située en Amérique. Et comme si elle avait voulu être, à cette époque-là, et elle a été probablement, la ville du monde. Donc la ville la plus haute du monde, la ville la plus grande du monde, la ville la plus folle du monde, la ville la plus riche du monde. Et toujours vers la fin du 19e siècle, non plus d'un point de vue symbolique, mais d'un point de vue politique, New York, un maire de New York a voulu à un certain moment faire sécession des États-Unis. C'est-à-dire que c'était au moment de la guerre civile, et New York trouvant que les débats et les convulsions qui agitaient l'Amérique à ce moment-là, enfin les États-Unis, ne la concernaient pas, et qu'elle avait sa propre trajectoire dans l'histoire, les élites new-yorkaises et les élites politiques new-yorkaises et le maire de New York à l'époque a très sérieusement proposé au Parlement américain une sécession dans le calme, de New York à l'égard du territoire des États-Unis, auquel cas New York serait devenue une sorte de ville-pays. Et donc elle aurait pu à ce moment-là entretenir ses rapports directs de la ville des villes au monde entier en tant que ville-pays.
Higelin.
Paris, New York, New York, Paris. Comme un pauvre con, tout seul à Orly. J'attends ma petite Suzy qui arrive par le Boeing de 15h33, tout droit du Minnesota. Comme je peux pas rester en place, avec Suzy a une plombe de retard. Flatte l'idée me prend d'aller traîner mes godasses sur le dépotoir d'aérogare qui est juste en face. Et là, vautrer sur la banquette d'un jumbo jet déglingué, je rêve tout éveillé à Paris, New York, New York, Paris, comme si vous y étiez, comme si tu y es. Parnasse à Manhattan, 5ème avenue, 6h du soir. Fiche-moi ce connard! T'as pas 100 balles pour un junkie, héroïne, pressée, cocaïne, baby. Papier, New York, vitrine, you see what I mean. Pompier trop tard, Madison Square. Struggle for life et business show. Salaud! Lis ton journal, crise mondiale. Eddie Merckx a bouffé son vélo. Panne de lumière à Santiago. Captain Nemo crash sur la lune et je toxie dans le couloir qui mène à ton dernier. Blackout, New York, bravo, bravo. Lâche le fauve avec son ticket troué à la main. Il a faim, il a faim. Paris, New York, New York, Paris. Dans 10 ans comme là-bas, ici. Asphyxie. Asphyxie.
Assis de Tudor City. Faisant face au mur de verre des Nations Unies, Tudor City à cheval sur la 42e rue. En tout, une douzaine d'immeubles, 12 000 habitants dans cette cité de hauteur, comme posée avec ses jardins, sur un échangeur d'autoroute entre Midtown et East River. Riche en luminures et style flamboyant. Quartier de petits vieux, de petits chiens et de concierges féroces. Petits carreaux aux fenêtres, nostalgie très britannique. 10 blocs plus haut, on passe Saint Patrick qui se reflète dans les parois de verre. Et on se retrouve devant Saint Thomas, juste à côté du musée d'art moderne, qui signale sa présence par des oriflammes multicolores suspendues à sa façade. C'est dimanche, un concert de carillons accompagne la lente procession des passants sur la 5e avenue. Plus haut encore vers le nord, les cathédrales de l'Upper West Side. C'est le Gothic Revisited de Riverside Church. La basilique de Lisieux à vallée blanche, façon Malraux. Le curé est japonais, il est baptiste. À l'intérieur, des huissiers, des ascenseurs, comme dans le hall du Plaza. Nef somptueuse, banquette en chêne recouverte d'un tissu moiré lit de vin. Hôtel surchargé, extrêmement ciselé. Vide, silence seulement rompu par les réclames d'un transistor que trimballe une bonne sœur dans le cloître voisin. En face, James Memorial Chapel. Retour au Tudor, construction camouflée par un épais manteau de lierre qui frémit, par vagues, dans le vent. Amsterdam Avenue, The Cathedral Church of St. John the Divine. Mégalomanie, une pancarte illuminée annonce la plus grande cathédrale du monde. Des icônes un peu partout, des lampadaires art déco très stylisés sur le parvis. Intrication des genres, télescopage des époques. Dans le jardin grillagé, contre les arcs boutants de la cathédrale, trois filles jouent au football avec un ballon ovale et une bande de petits noirs.
Richard L., Blank Generation.
Triangles were falling at the window as the doctor cursed. He was a cartoon long forsaken by the public eye. The nurse suggested her dollars as I breathe my first. The doctor grabbed my throat and yelled, God, for the latest prize. I belong to the blank generation and I can take it or leave it each time. Well, I belong to the generation, but I can take it or leave it. Take it or leave it each time. Well, I belong to the generation, but I can take it or leave it each time.
Et à la pointe nord de Manhattan, sur la colline de Fort Tyrone Park, qui domine l'Hudson, les cloîtres, the cloisters, l'un des pèlerinages des promeneurs new-yorkais, un des hauts lieux de l'art gothique. Les cloîtres, puzzle romano-gothique, assemblage de pièces disparates, sont l'œuvre de Rockefeller, qui en a fait cadeau à la ville de New York, après les avoir déplacées, pierre par pierre, depuis le vieux continent. Et peut-être que ça les met en joie, les Américains, de fouler des vieilles pierres usées par des générations de moignons et de clercs. C'est le grand souk du gothique, pêle-mêle, des portes du XIIe, de la Saintonge, et des portails moulurés de Bourgogne du XIIIe siècle, une chapelle romane, figurines de pierre de la cathédrale d'Autun, tympan sculpté, niche, chapiteau à archet, et la statue de Clovis. Dans le cloître Saint-Guilhem, deux jeunes Américains, sans doute des séminaristes, psalmodient du Grégorien. Hosanna in excelsis Deo. Fenêtre en ogive, pilastres cannelés et colonnettes jumelées. Dans la grande salle gothique, une très belle statue du roi Balthazar, habillée à la mode médiévale, chausses longues et pointues, riche pourpoint et toque de velours brodé d'or. Et puis aussi, autel, retable, vitraux, stalles, manteaux de cheminée, en vrac. Un peu plus loin, les tapisseries. Les hermines courent à la suite des pré-chevaliers sur les tapisseries flamandes. Ancêtre des bandes dessinées, sur l'une d'elles, une bulle. Pour mieux plaire à mamie, je mettrai ce chapeau joli. L'histoire de la licorne en cet épisode. Les manants chassent le monstre. Lévrier et Castelet. Le roi Arthur, héros chrétien. Et puis encore, une abbaye cistercienne de Gascogne. Des cloîtres remplis d'herbes médicinales. L'ensemble à quelques rues d'Harlem. Harlem à New York. Au cloître, tous les soirs, on donne un concert de musique moyenâgeuse, lutte, viol et trouvère.
Wow. New York, just like I pictured it. And everything.
Hey, brother. Hey, come here, Slick. Hey, huh? you look hip, man. Hey, you want to make yourself $5, man?
Yeah, brother.
Hey, look here, run this cross the street for me right quick, okay? Run this cross the street for me.
Hey. What? Huh? I don't know. What? I'm just going across the street.
Shut your mouth.
Oh, no. What'd I do?
Turn around, Put your hands behind your back. Let's go.
A jury of your peers having found you guilty. 10 years.
What?
Come on! Get in that cell, nigger.
God, no.
His hair is long. His feet are hard and thrifty. He spends his life walking the streets of New York City. He's almost dead from breathing in air pollution. He tried to fight, but to him that's no solution.
New York toujours, avec Alain Mesdames.
Oui, moi, il y a une chose qui m'a tout le temps frappé encore à New York, et au niveau des signes de New York et des images de New York, et c'est qu'il y a constamment une sorte de confusion carnavalesque des signes. C'est-à-dire que chaque chose est tout le temps ce qu'elle est, et en même temps autre chose que ce qu'elle est, comme si elle amalgamait son signe le plus voisin pour le répercuter en écho. Et en même temps, autre chose, c'est que les objets de la ville deviennent comme des êtres vivants ou des êtres humains, et les hommes deviennent comme des objets inertes et inanimés. Un exemple, la nuit, voir défiler une rame de métro à New York à toute vitesse, c'est voir toute une série de silhouettes et de visages pendant un quart de seconde, chacun d'eux parfaitement immobile, puisqu'on ne les voit qu'un quart de seconde et que les rames passent vraiment à toute vitesse dans un fracassement énorme. Et par contre, ce qui s'anime, ce qui bouge, ce qui est vivant, c'est l'énorme graffiti qui peut être dessiné tout au long de toutes les parois de tous les wagons de métro. Et donc, ce graffiti sur cette rame qui passe à toute vitesse se met à s'animer comme un dessin animé. Et donc, l'inerte qui est la rame de métro ou le métro lui-même devient un dessin animé vivant qui change tout le temps de couleur et de forme, hein, et puis ça gonfle et puis ça diminue. Et par contre, ce qui est vivant n'est plus qu'un objet figé qui sont les différentes silhouettes entrevues un quart de seconde et qui sont les hommes, les êtres humains. Et plusieurs fois, cette sorte de renversement de l'inanimé en vivant et du vivant en inerte m'a frappé à New York. Et également, toujours pour parler des signes de New York, le fait que, par exemple, entre le moment où New York est sous le soleil et le moment où New York est sous la pluie, elle change complètement de physionomie et on pourrait presque dire qu'elle change de sexe. C'est-à-dire que New York au soleil est quelque chose qui a une connotation féminine, et cette sorte de connotation féminine, elle la perd pour retrouver tout ce que l'on peut associer à l'idée d'homme, de virilité si on veut, c'est-à-dire quelque chose de plus austère, moins fantaisiste, plus refermé, plus obsessionnel, moins hystérique. Et donc entre le pôle hystérique de New York et son pôle obsessionnel, c'est comme aussi si cette ville changeait, et les signes de cette ville, presque, disons, de connotation sexuelle. Et effectivement, on peut s'interroger sur le sexe des anges, mais on peut s'interroger sur le sexe des villes également. On ne sait jamais très bien de quel sexe est une ville, si New York est une elle, ou si elle est un île. Pour moi, elle est un elle, mais cela dépend des instants de cette vie et de cette sensualité.
The way you play guitar makes me feel so, makes me feel so masochistic. The way you go down low deep into the neck, and I would do anything, and I would do anything. And Patty Hearst, you standing there in front of the Symbionese Liberation Army flag with your legs spread, I was wondering, were you getting it every night from a black revolutionary man and his women, or were you really dead? And now that you are on the run, what goes on in your mind? Your sister, they sit by the window. No, your mama does a sit and cry. And your daddy, well, you know what your daddy said, Patty. You know what your daddy said, Patty? He said, well, 60 days ago, she was such a lovely child. Now here she is with a gun in her hand.
Where you gonna run to? You gotta come.
Joe, Patti Smith.
Les grèves à New York prennent une dimension absolument extraordinaire. Et lorsque les éboueurs se mettent en grève, ou les fossoyeurs se mettent en grève, et la ville se remplit immédiatement, toutes les chambres froides se remplissent immédiatement de cadavres, et une nouvelle population de cadavres se met à attendre pendant 3 semaines, 1 mois, de pouvoir être enterrés, puisque les fossoyeurs sont en grève. Lorsque ce sont les éboueurs, ce sont évidemment les poubelles, les boîtes à ordures. Et il peut arriver à ce moment-là que les policiers profitent de ce que les fossoyeurs et les éboueurs soient en grève pour se mettre eux-mêmes en grève. À partir de ce moment-là, c'est la ville panique, totalement. Les pompiers, qui sont effectivement, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais qui sont un autre décor constitué, qui sont... Il y a une tradition du pompier héros à New York, c'est-à-dire que New York a toujours vécu dans la hantise du feu de l'incendie. Il y a eu l'incendie du Crystal Palace, il y a eu plusieurs incendies importants ou des navires qui explosaient d'un seul coup dans le port de New York. Et donc la hantise de la conflagration, de la déflagration et du feu est une obsession new-yorkaise, à preuve constamment tous les escaliers métalliques de secours qui hérissent New York d'une sorte d'architecture de toile d'araignée, de métal et de panique en même temps, montre cette angoisse face à l'idée du feu. Et donc, par contre-coup, le corps des pompiers a toujours été un corps extrêmement populaire, et ce sont des sortes de héros populaires de la saga new-yorkaise. Et il y a eu même des pompiers au 19e siècle qui ont fait une carrière politique municipale à partir de leur position de pompier, célèbre pour avoir réussi à conduire au feu à propos de tel incendie, ces hommes, de façon victorieuse. Et à partir de là, se greffe, à travers telle ou telle machine politique, une carrière politique. Donc les pompiers sont des personnages qui représentent d'une certaine façon, je pense, la virilité. Mais en même temps, on passe insensiblement de ce qui est de l'ordre du corps de métier à ce qui est de l'ordre du corps propre, c'est-à-dire du corps sexuel. C'est-à-dire que non seulement New York est une série, disons, un patchwork de communautés ethnoculturelles et professionnelles différentes les unes des autres, mais encore, New York est une sorte d'énorme tissu rapiécé d'espace spécialisé en permissivité. C'est-à-dire que dans la Bowery, ce qui est, c'est l'espace de la permissivité de l'alcoolisme, enfin, de l'alcool. Et c'est une sorte de spirale mortelle dans laquelle, au-delà d'un certain seuil, en deçà d'un certain seuil, disons, de dégradation ou de pénétration dans l'alcool, on s'installe à la Bowery parce qu'on ne peut plus survivre que dans la Bowery, arrivé à ce stade de spécialisation dans l'alcool et dans une certaine façon d'exister. Il y a en même temps, bien sûr, le quartier des homosexuels, hommes ou femmes, à New York, et là, on se retrouve dans d'autres espaces de permissivité, mais organisés en fonction de cette permissivité, avec leur quartier, leurs journaux, leur atmosphère, leur trottoir et leur prostitution propre, chaque fois. Et donc tout se passe comme si New York s'était organisé comme une trame où, en tel lieu, ce qui est interdit et inacceptable ailleurs est parfaitement admis et organique en cet endroit. Mais alors, s'il y a transgression, c'est-à-dire que si les homosexuels débordent hors de leur quartier, ou les clochards, et il y a représailles à ce moment-là, parce que la transgression montre qu'il y a danger public. Et donc tout se passe comme si il y avait des sortes de zones de silence entre des espaces de tolérance, mais dès lors que la zone de silence ou le guet, comme au Moyen-Âge de nouveau, est transgressée, il y a bataille. Il y a bataille. Et toujours pour parler de cette dimension médiévale de New York, d'une certaine façon, la lecture des faits divers new-yorkais et les combats politiques qui se déroulent à New York font penser beaucoup plus à l'équivalent urbain des jacqueries paysannes du Moyen-Âge français, avec les nomades sauvages, avec les pelles et les pioches, avec n'importe quoi, et les couteaux, hein, à un combat politique au sens où nous l'entendons, nous. C'est-à-dire organisé, avec une manifestation organisée, des banderoles. Là, on a une problématique du politique qui est beaucoup plus l'homologue de la jacquerie paysanne, mais en milieu sururbanisé. Et alors, au niveau d'une... on peut encore réfléchir, enfin, on peut encore rêver presque, réfléchir et rêver en même temps. C'est-à-dire qu'on peut se demander si, alors qu'en Chine ont été inventées les communes populaires de la campagne, mais que les communes populaires urbaines en Chine n'ont jamais vraiment existé, et on peut se demander si les communes populaires urbaines n'ont pas pour seul exemple, le territoire new-yorkais. C'est-à-dire que dans cette idée qu'il faut compter, qu'il ne faut compter que sur ses propres forces, à tous les sens du terme, financier, militaire, d'organisation, d'une certaine façon, les petites patries new-yorkaises, c'est-à-dire les différentes communautés, d'une certaine façon, sont des communes populaires, avec tout ce que ça peut avoir d'effrayant à certains moments, mais avec tout ce que ça peut avoir pour les gens qui sont dans les communautés, d'indispensable pour n'avoir à compter que sur ses propres forces, et donc survivre, vivre, se débrouiller. Développe une métaphore romanesque qui est la métaphore de l'effondrement, hein, de l'effondrement des différents gratte-ciel et de l'effondrement de New York sur elle-même. Ce serait non pas une explosion de New York, mais ce que Jean Baudrillard désigne par le terme d'implosion, comme un appareil de télévision peut imploser, c'est-à-dire en fait exploser vers son intérieur. Et donc l'idée de l'effondrement, ce serait de l'écroulement, de l'effondrement, ce serait une sorte de nouveau cette idée de spirale mortelle, qui est donc symbolisée par le gratte-ciel qui s'écroule, tous les gratte-ciels s'écroulent, tous les gratte-ciels sont pourris, et c'est un peu le thème de John L'Enfer. Alors, si l'on quitte la métaphore et la rêverie tout en essayant de spéculer sur ce qui peut advenir de New York, ce qu'il est en train d'advenir en tout cas, c'est une sorte de paroxysme merveilleux de la situation actuelle. C'est-à-dire que tous les bourgeois, plus largement toutes les classes moyennes, fuient de plus en plus, ont fui de plus en plus le centre de New York, c'est-à-dire Manhattan, et vivent dans les banlieues, et ne font plus maintenant que frôler New York et goûter à New York, se servir de Manhattan quand c'est nécessaire, et ne demeurent plus dans Manhattan, mis à part les employés et les PDG dans la journée, mais ne demeurent plus dans Manhattan pour vivre, que ceux, que de plus en plus ceux qui n'ont pas eu les moyens d'aller vers les banlieues, c'est-à-dire les paumés, les perdus, les éperdus, ou ceux qui choisissent de vivre dans le bateau ivre, ou dans la nef des fous, c'est-à-dire donc les créateurs, les artistes qui s'installent à Soho. Et donc on est en train d'arriver à une sorte de situation merveilleusement schématique, en ce que Manhattan devient de plus en plus l'espace des hors-la-loi au sens le plus large, c'est-à-dire hors du commun, hors concours. Moi, c'est un petit peu de cette façon-là que je verrai l'avenir de New York, c'est-à-dire non pas un avenir nécessairement catastrophique, mais un avenir peut-être surréel, et c'est pour cela que je disais merveilleux.
Good evening. We're the Velvet Underground. How are you? Glad you could all make it. This is our last night here, and we're glad to see you all showed up. Do you people have a curfew or anything like that? I mean, does it matter what time you go home tonight? I mean, do you have school tomorrow? Nobody here has school tomorrow? Yeah, see? Because we could do either one long set or we could do two sets, you know, whichever made it easier for you.
Reste une dernière analogie entre building et cathédrale, c'est la folie. Car ces actes de foi architecturaux sont autant d'actes délirants. Et ne fallait-il pas être fou, possédé par un délire mégalomaniaque, pour bâtir les gratte-ciels de Manhattan, comme il fallait être fou pour être bâtisseur de cathédrale. Le culte prométhéen d'amener à la surface terrestre un peu de la lumière céleste est un défi hystérique. Retour en ville dans le bas de la ville, Trinity Church. Inventaire historique, on rénove Trinity. Et les architectes qui en ont la charge grattent les couches de peinture pour retrouver le coloris des couvertures originales. Trinity Church, le joyau du Gothic Revival, n'a pourtant que 130 ans. Et puis Grace Church, magnifique, Wesley miniature, tout de marbre. Et puis le Woolworth Building, les galeries Lafayette du Gothique, et le château du Belvédère en plein centre de Central Luna Park, donjon et machicoulis, et le Chrysler Building avec ses gargouilles, ses fioritures de métal, ses médaillons de bronze. Les lofts de Soho, leur mode, annoncent peut-être un nouvel âge. Ce sont souvent d'anciens ateliers de confection, transformés en appartements, en workshops ou en galeries d'art. Poutrelles métalliques, rainurées, peintes en blanc. Art déco, art végétal. Les lofts annoncent peut-être déjà la renaissance. New York Moyen Âge. Avec ce soir Alain Mesdames, auteur de New York Terminal paru aux éditions Galilée. Et dans le studio, Roland Dandalex et Joël Rogel. We'll be right back.
C'était une émission diffusée la première fois le 4 janvier 1978.